Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin, chapitre 9. Au Kamtchatka. Le Kamtchatka, cette longue péninsule sibérienne, arrosée par la rivière de ce nom, se développe entre la mer d'Okhotsk et l'océan glacial arctique. Elle ne mesure pas moins de 1350 km sur une largeur de 400. Cette province appartient aux Russes depuis 1806. Après avoir fait partie du gouvernement d'Irkoutsk, elle forme une des 8 grandes divisions dont se compose la Sibérie au point de vue administratif. Le Kamtchatka est relativement peu peuplé, à peine un habitant par kilomètre superficiel, et il est visible que la population ne tend pas à s'accroître. En outre, le sol paraît peu susceptible de culture, bien que la température moyenne y soit moins froide qu'en d'autres parties de la Sibérie. Il est semé de lave, de pierres poreuses, de cendres provenant des déjections volcaniques. Son ossature est principalement indiquée par une grande chaîne découpée qui court au nord et au sud, plus rapprochée du littoral de l'est et dont plusieurs sommets sont fort élevés. Cette chaîne ne s'arrête pas sur l'extrême limite de la presqu'île. Au-delà du cap Lopatka, elle se prolonge à travers le chapelet des Kouriles jusqu'au voisinage des terres du Japon. Les ports ne manquent point à la côte occidentale, en remontant l'isthme qui réunit le Kamtchatka au continent asiatique. Karachinsk, Chavivesk, Zwashink, Chaljulinsk, Ozernovsk. Le plus important est, sans contredit, Petropavlovsk, situé à 250 km environ du cap Lopatka. C'est dans ce port que le Saint-Enoch vint mouiller vers 5 heures du soir, à la date du 4 octobre. L'ancre tomba aussi près de terre que le permit son tirant d'eau, au fond de cette baie d'Avatcha, assez vaste pour contenir toutes les flottes du monde. Le Repton s'y trouvait déjà en relâche. Si le docteur Filliol avait jamais formé le rêve de visiter la capitale du Kamtchatka, il allait le réaliser dans les conditions les plus favorables. Sous ce climat salubre, d'où se dégage un air sain et humide, il est rare que l'horizon soit parfaitement net. Ce jour-là, pourtant, dès l'entrée du navire dans la baie d'Avatcha, on put suivre du regard le long profil de ce magnifique panorama de montagnes. Des volcans nombreux s'ouvrent dans cette chaîne. Le Chivelutch, le Chivels, le Kronosker, le Kortasker, le Pobronnaja, la Satchinska. Et enfin, en arrière de la bourgade si pittoresquement encadrée, le Koryatsky, blanc de neige, dont le cratère vomissait des vapeurs fuligineuses mêlées de flammes. Quant à la ville, encore à l'état rudimentaire, elle ne se composait que d'une agglomération d'habitations en bois. Au pied des hautes montagnes, on eût dit un de ces jouets d'enfants dont les maisonnettes sont éparpillées sans ordre. De ces diverses pièces, la plus curieuse est une petite église du culte grec de couleur vermillon, à toiture verte, et son clocher distant d'une cinquantaine de pas. Deux navigateurs, l'un danois, l'autre français, sont honorés de monuments commémoratifs à Petropavlovsk, Bering et le commandant de la Pérouse. Une colonne pour le premier, une construction octogonale blindée de plaques de fer pour le second. Ce n'est pas dans cette province que le docteur Filliol eut rencontré des établissements agricoles de quelque importance. Grâce à l'humidité persistante, le sol est surtout riche par ses pâturages, et il donne jusqu'à 3 coupes annuelles. Quant aux graminées, elles sont peu abondantes, et les légumes y réussissent médiocrement. Exception faite pour les choux-fleurs, qui atteignent des proportions colossales. On n'y voit que des champs d'orge et d'avoine, peut-être plus productifs que dans les autres parties de la Sibérie septentrionale, le climat étant moins rude entre les deux mers qui baignent la presqu'île. M. Bourcard ne comptait séjourner à Petropavlovsk que le temps de s'y procurer de la viande fraîche. En réalité, la question n'était pas encore résolue à propos de l'hivernage du Saint-Enoch. Ce fut l'objet d'une conversation entre M. Heurtaut et lui, conversation dans laquelle il s'agissait de prendre une décision définitive. Et voici ce que dit le capitaine Bourcard. « Je ne crois pas, en tout cas, que nous devions passer l'hiver dans le port de Petropavlovsk, bien qu'un navire n'ait rien à y craindre des glaces, puisque la baie d'Avatcha reste toujours libre, même par les plus grands froids. « Capitaine, demanda le second, est-ce que vous songeriez à regagner Vancouver ?»«
Probablement, Heurtaut.
N'y aurait-il pas avantage à y vendre ce que nous avons d'huile dans nos barils ?»«
Un tiers de chargement, tout au plus, répondit le second.
« Je le sais, mais pourquoi ne pas profiter de l'élévation des cours ? Et qui sait s'ils tiendront jusqu'à l'année prochaine ?»«
Ils ne baisseront pas, c'est à croire, capitaine. Si les baleines, comme il semble, abandonnent ces parages du Pacifique septentrional. »
Il y a là quelque chose de vraiment inexplicable, répondit M. Bourcard. Et peut-être les baleiniers ne seront-ils plus tentés de revenir dans la mer d'Oktskotsk.
Et si nous retournons à Victoria, reprit M. Heurtaut, le Saint-Enoch y passera-t-il l'hiver?
C'est ce que nous déciderons plus tard. La traversée de Petropavlovsk à Victoria durera de 6 à 7 semaines, pour peu qu'elle soit contrariée, et qui sait si nous n'aurons pas en route occasion d'amarrer 2 ou 3 baleines. Enfin, il faut bien qu'elles soient quelque part, puisqu'on ne les rencontre ni dans la mer d'Otkotsk, ni dans la baie Marguerite.
Il est possible qu'elles recherchent le détroit de Bering, capitaine?
Cela peut être, Heurtaut. Mais la saison est trop avancée pour nous élever si haut en latitude. Nous serions bientôt arrêtés par la banquise. Non, pendant la traversée, tâchons de donner quelques coups de harpon.
À propos, capitaine, au lieu d'hiverner à Victoria, ne serait-il pas préférable de retourner en Nouvelle-Zélande?
J'y ai songé, répondit M. Bourcard. Toutefois, pour se décider, attendons que le Saint-Enoch soit de retour à Vancouver.
En somme, capitaine, il n'est point question de revenir en Europe.
Non, pas avant d'avoir fait une complète saison l'année prochaine.
Ainsi, demanda M. Heurtaut en terminant, nous ne tarderons pas à quitter Petropavlovsk.
Dès que nos approvisionnements seront achevés, répondit M. Bourcard.
Ces projets, portés à la connaissance de l'équipage, reçurent l'approbation générale, sauf celle du tonnelier. Aussi, ce jour-là, lorsque Maître Olive le tint dans un des cabarets de la bourgade devant une bouteille de vodka, il lui dit
« Eh bien, vieux, ton opinion sur les résolutions du capitaine ?»«
Mon opinion, répondit Jean-Marie Cabidoulin, est que le Saint-Enoch ferait mieux de ne pas revenir à Vancouver. »
« Pourquoi ?»«
Parce que la route n'est pas sûre. »«
Bon, tu voudrais hiverner à Petropavlovsk ?»«
Pas davantage. » »«
Alors ?»«
Alors, le mieux serait de mettre cap au sud pour revenir en Europe. »«
C'est ton idée ?»«
C'est mon idée. Et c'est la bonne. »
Le Saint-Enoch, sauf quelques réparations peu importantes, n'avait qu'à renouveler ses vivres frais et sa provision de combustible. C'était une besogne dont l'équipage s'occupa sans retard. On vit d'ailleurs que le Repton procédait au même travail, ce qui indiquait les mêmes desseins. Il semblait donc probable que le capitaine King appareillerait sous peu de jours. Pour quelle destination, M. Bourcard n'avait pu le savoir. Quant au docteur Filliol, il consacra les loisirs de cette relâche à visiter les environs, ainsi qu'il avait fait à Victoria, il est vrai, dans un rayon infiniment plus restreint. Au point de vue de la facilité des déplacements, le Kamtchatka n'en était pas encore où en était l'île de Vancouver. Quant à sa population,
Elle présentait un type très différent de celui des Indiens qui habitent l'Alaska et la Colombie anglaise. Ces indigènes ont les épaules larges, les yeux saillants, les mâchoires accusées, les lèvres épaisses, la chevelure noire. Des gens robustes, mais d'une caractéristique laideur. Et combien la nature se montrait sage en leur ayant donné aussi peu que possible de nez dans un pays où les débris de poissons laissés en plein air affectent si désagréablement le nerf olfactif. Les hommes ont le teint d'un brun jaunâtre et il est blanc chez les femmes, autant qu'on peut en juger. D'habitude, ces coquettes se couvrent le visage d'une baudruche fixée à la colle et se fardent d'un rouge de varech mélangé de graisse de poisson. Quant à l'habillement, il se compose de peaux, teintes en jaune avec l'écorce du saule, de chemises en toile de Russie ou de Boukhara, de pantalons que revêtent les deux sexes. À tout prendre, les Kamtchadals, sous ce rapport, seraient aisément confondus avec les habitants de l'Asie septentrionale. Au surplus, les coutumes locales, la manière de vivre, sont les mêmes qu'en Sibérie, sous la puissante administration moscovite, et c'est la religion orthodoxe que professe la population. Il convient d'ajouter que grâce à la salubrité du climat, les Kamtchadals jouissent d'une santé excellente, et des maladies sont rares dans le pays. Les médecins n'y feraient pas fortune, dut se dire le docteur Filiol en voyant ces hommes, ces femmes, doués d'une remarquable vigueur, d'une souplesse peu ordinaire, due à la pratique constante des exercices physiques, et qui ne grisonnent jamais avant l'âge de 60 ans. Du reste, la population de Petropavlovsk se montrait bienveillante, hospitalière, et s'il y a un défaut à lui reprocher, c'est de n'aimer que le plaisir. Et en réalité, pourquoi s'astreindre au travail lorsqu'on peut se nourrir à peu de frais? Le poisson, le saumon surtout, sans parler des dauphins, abondent sur ce littoral, et les chiens eux-mêmes s'en nourrissent presque exclusivement. Ces chiens, maigres et robustes, on les emploie au tirage des traîneaux. Un instinct très sûr leur permet de s'orienter au milieu de si fréquentes tempêtes de neige. À noter que les Kamtchadals ne sont pas seulement pêcheurs. Les quadrupèdes ne manquent point. Zibelines, hermines, loutres, rennes, loups, moutons sauvages, dont la chasse est assez fructueuse. Les ours noirs se rencontrent également en grand nombre dans les montagnes de la presqu'île. Aussi redoutables que leurs congénères de la baie d'Okhotsk, il faut prendre certaines précautions. Lorsqu'on s'aventure aux environs de Petropavlovsk, des agressions sont toujours à craindre. La capitale du Kamtchatka ne comptait pas alors plus de 1100 habitants. Sous Nicolas Ier, elle fut entourée de fortifications que, pendant la guerre de 1855, la flotte anglo-française détruisit en partie. Ces fortifications se relèveront. Sans doute Petropavlovsk est un point stratégique de grande importance et il importe de garantir cette superbe baie d'Avatcha contre toute attaque. L'équipage du Saint-Enoch s'occupa aussi de refaire la provision de bois en vue d'une longue traversée, et pour le cas où l'on pêcherait quelques baleines. Mais se procurer ce combustible sur le littoral du Kamtchatka ne fut pas aussi facile que sur le littoral de la mer d'Okhotsk. Les hommes durent s'éloigner de 3 ou 4 milles pour se rendre à une forêt qui couvre les premières rampes du volcan de Korohatsky. Il y eut donc nécessité d'organiser un transport par traîneau attelé de chiens afin de rapporter le bois à bord. Dès le 6 octobre, Maître Kabidoulin, le charpentier Thomas et 6 matelots, munis de scie et de hache, montèrent dans un traîneau, loué par le capitaine Bourcard, et que dirigeait son conducteur indigène avec l'adresse d'un véritable moujik. Au sortir de la ville, le traîneau suivit un chemin, plutôt sentier que route, qui sinuait entre les champs d'avoine et d'orge. Puis il s'engagea à travers de vastes pâturages, dont la dernière coupe venait d'être faite et qu'arrosait nombre de criques. Ce trajet rapidement enlevé par les chiens, la forêt fut atteinte vers 7h30. Ce n'était, à vrai dire, qu'une futaie de pins, de mélèzes et autres arbres résineux à verdure permanente. Une douzaine de baleiniers auraient eu peine à s'y approvisionner à leur suffisance. Aussi le charpentier tomba de dire « Décidément, ce n'est point le Kamtchatka qui ferait bouillir les cabousses. »
« Il y a là plus de bois que nous n'en brûlerons, » répondit maître Cabidoulin.
« Et pourquoi ?»«
Parce que les baleines sont allées au diable, et il est bien inutile de couper des arbres quand on n'aura pas de feu à entretenir sous les pots. »
« Soit, reprit le charpentier, mais d'autres ne sont pas de cet avis et comptent encore sur quelques coups de harpon. »
En effet, à cet endroit, une équipe travaillait sur la lisière du sentier. C'était précisément une demi-douzaine de matelots du Repton, qui depuis la veille avaient commencé cette besogne sous la direction du second Strock. Peut-être le navire anglais devait-il faire voile vers Vancouver, comme le Saint-Enoch.
Après tout, n'y eut-il là qu'une centaine d'arbres, les deux baleiniers en auraient leur suffisance. Les hommes ne viendraient donc pas à se disputer une racine ou une branche. Ni la cabousse de l'anglais, ni la cabousse du français ne chômeraient, faute de combustible. Au surplus, par prudence, le charpentier ne conduisit pas son équipe du côté occupé par les gens du Repton. On ne s'était pas fréquenté sur mer, on ne se fréquenterait pas sur terre. Avec juste raison, M. Bourcard avait recommandé, le cas échéant, d'éviter tout contact entre les deux équipages. Aussi les matelots du Saint-Enoch se mirent-ils au travail à l'autre extrémité du sentier. Et dès le premier jour, deux stères de bois furent rapportées à bord. Mais il arriva ceci. Le dernier jour, malgré les conseils du capitaine Bourcard, les équipes du Repton et du Saint-Enoch finirent par se rencontrer et se quereller à propos d'un arbre. Les Anglais n'étaient point endurants, les Français pas davantage, et on ne se trouvait là ni en France ni en Angleterre, terrain neutre s'il en fut. Bientôt, des propos malséants commencèrent à s'échanger, et des propos au coup, il n'y a pas loin entre matelots de nationalités différentes. On le sait, la rancune de l'équipage du Saint-Enoch datait déjà de quelques mois. Or, pendant la dispute que ni maître Cabidoulin ni Thomas ne purent empêcher, le matelot Germiné fut brutalement poussé par le charpentier du Repton. Cet être grossier, à demi ivre de whisky et de gin, vomit toute la série d'injures qui sortent si abondamment d'une bouche saxonne. Aussitôt les deux équipes de s'avancer l'une vers l'autre. Il ne parut pas d'ailleurs que le second Strock fît le moindre effort pour retenir les siens, et peut-être allait-on en venir aux mains. En premier lieu, Germiné n'étant pas d'humeur à garder la bourrade qu'il avait reçue, sauta d'un bond sur l'anglais, lui arracha son surouet et le piétina en s'écriant « Si le Repton n'a pas salué le Saint-Enoch, du moins cet English-là aura mis chapeau bas devant nous. »
« Bien envoyé !» ajoutèrent ses camarades.
De ces deux équipes en nombre égal, on ne pouvait dire laquelle l'emporterait dans la lutte. Ces matelots, dont l'animation s'accroissait, étaient armés de haches et de couteaux. S'ils se jetaient les uns sur les autres, il y aurait du sang répandu, et peut-être mort d'homme. Aussi, tout d'abord, le charpentier et maître Cabidoulin cherchèrent-ils à calmer leur compagnon qui allait prendre l'offensive. De son côté, le second Choc, comprenant la gravité d'une rixe, parvint à retenir les gens du Repton. Bref, il n'y eut que des injures échangées en deux langues, et les Français se remirent au travail. D'ailleurs, l'abattage fut terminé ce jour-là, et les équipages n'auraient plus l'occasion de se rencontrer. 2 heures après, le tonnelier, le charpentier et leurs hommes étaient de retour à bord avec le traîneau.
et lorsque M. Bourcard apprit ce qui s'était passé,
« Heureusement, le saint Enoch ne tardera pas à lever l'ancre, dit-il, car cela finirait mal. »
En effet, il y avait à craindre que les matelots des deux navires, de plus en plus surexcités, fussent amenés à se battre dans les rues de Petropavlovsk, au risque d'être appréhendés par la police russe. Aussi, désireux d'éviter une collision et ses suites dans les cabarets, le capitaine Bourcard et le capitaine King ne donnèrent-ils plus permission de descendre à terre. Il est vrai, le saint Enoch et le Repton étant mouillés à moins d'une encablure l'un de l'autre, les provocations partaient et s'entendaient des deux bords. Donc, le mieux serait de hâter les préparatifs, d'embarquer les dernières provisions, d'appareiller le plus tôt possible, puis, une fois en mer, de ne point naviguer de conserve, et surtout de ne pas se diriger vers le même port. Entre-temps, un incident se produisit qui était de nature à retarder le départ du navire français et du navire anglais. Dans l'après-midi du 8 octobre, bien qu'il régnât une petite brise du large très favorable à la pêche, on fut très surpris de voir les chaloupes Kamtchadal forcées de voile pour regagner le port. Telle avait été la précipitation de cette fuite que plusieurs rentraient sans leur filet, abandonnés à l'ouvert de la baie d'Avatcha. Et voici ce dont la population de Petropavlovsk ne tarda pas à avoir connaissance. À un demi-mille au large de la baie, toute cette flottille de pêche venait d'être frappée d'épouvante à la vue d'un monstre marin de taille gigantesque. Ce monstre glissait à la surface des eaux que sa queue battait avec une incroyable violence. Sans doute, il fallait faire la part des imaginations surexcitées, de la peur bien naturelle dont tous ces pêcheurs furent saisis. À les entendre, cet animal ne mesurait pas moins de 300 pieds de long sur une grosseur variant de 15 à 20, la tête pourvue d'une crinière, le corps très renflé en son milieu, et, ajoutaient quelques-uns, armé de pinces formidables comme un énorme crustacé. Décidément, si ce n'était pas le serpent de Jean-Marie Cabidoulin, et à la condition que ce ne fût pas une illusion, cette partie de mer, au large de la baie d'Avatcha, avait été, ou était encore fréquentée, par un de ces animaux prodigieux, auxquels il ne serait plus possible d'attribuer une origine légendaire. Que ce fût une immense algue, de l'espèce de celle que le saint Enoch avait rencontrée au-delà des Aléoutiennes, non, et pas d'erreur à ce sujet. Il s'agissait bien d'un être vivant, ainsi que l'affirmaient les 50 ou 60 pêcheurs qui venaient de rentrer au port. D'une telle taille, il devait avoir une telle puissance qu'un bâtiment de la grandeur du Repton ou du saint Enoch n'aurait pu lui résister. Et alors, M. Bourcard, ses officiers, son équipage, de se demander si ce n'était pas la présence du dit monstre dans ces parages du Pacifique Nord qui avait provoqué la fuite des baleines. Si ce n'était pas ce géant océanique qui les avait chassés de la baie Marguerite d'abord, de la mer d'Okhotsk ensuite. Celui dont le capitaine de Lee Wing avait parlé, et qui, après avoir traversé cette partie de l'océan, venait d'être signalé dans les eaux Kamtchadal. Voilà ce que chacun se demandait à bord du saint Enoch. Et n'était-ce pas Jean-Marie Cabidoulin qui avait raison contre tout le monde en affirmant l'existence du grand serpent de mer ou autre monstrueuse bête de ce genre? Il y eut donc grosses et passionnées discussions à ce sujet, dans le carré comme dans le poste. Les pêcheurs, sous l'empire d'une panique, n'avaient-ils point cru voir ce qu'ils n'avaient pas vu? C'était l'opinion de M. Bourcard, du second, du docteur Filiol et de Maître Olive. Quant aux deux lieutenants, ils se montraient moins affirmatifs. En ce qui concernait l'équipage, la grande majorité n'admettait point l'erreur. Pour eux, l'apparition du monstre ne faisait aucun doute.
« Après tout, dit Monsieur Heurtaut, que ce soit vrai ou faux, que cet animal extraordinaire existe ou non, nous n'allons point remettre notre départ, je pense. »
« Je n'y songe pas, répondit Monsieur Bourcard, et il n'y a pas lieu de rien changer à nos projets.
« Que diable ! S'écria Romain Allotte. « Le monstre, si monstrueux qu'il soit, n'avalera pas le Saint-Enoch comme fait un requin d'un quartier de l'art. »
« D'ailleurs, dit le docteur Filiol, dans l'intérêt général, mieux vaut savoir à quoi s'en tenir.
« C'est mon avis, répondit M. Bourcard, et après-demain, nous mettrons en mer. »
Au total, on approuva la résolution du capitaine. Et quelle gloire pour le bâtiment et l'équipage qui parviendraient à purger ces parages d'un pareil monstre.
« Eh bien, vieux, dit Maître Olive au tonnelier, on partira tout de même. Et si l'on s'en repent...
« Il sera trop tard, répondit Jean-Marie Cabidoula.
« Alors, il faudrait ne plus jamais naviguer ?»«
Jamais. »«
Ta tête déménage, vieux !»«
Avoueras-tu que de nous deux, celui qui avait raison, c'est moi ?»«
Allons donc,
répliqua Maître Olive en haussant les épaules. « Moi, te dis-je, puisqu'il est là, le serpent de mer,
« nous verrons bien.
C'est tout vu. » Et, au fond, le tonnelier se trouvait entre la crainte que devait inspirer l'apparition du monstre et la satisfaction d'avoir toujours cru à son existence. En attendant, la terreur régnait dans cette bourgade de Petropavlovsk. On l'imaginera volontiers. Ce n'était pas cette population superstitieuse qui eut mis en doute d'abord l'arrivée de l'animal dans les eaux sibériennes. Personne n'aurait admis que les pêcheurs se fussent trompés. Ce n'était point des Kamtchadal qui se seraient montrés sceptiques devant les plus invraisemblables légendes de l'océan. Donc, les habitants ne cessaient de surveiller la baie d'Avatcha, redoutant que le terrible animal y cherchât refuge. Quelque énorme lame se soulevait-elle au large, c'était lui qui troublait l'océan jusque dans ses profondeurs. Quelque formidable rumeur traversait-elle l'espace, c'était lui qui battait les airs de sa puissante queue. Et il s'avançait jusqu'au port, si, à la fois ophidien et saurien, cet amphibie s'élançait hors des eaux et se jetait sur la ville. Il ne serait pas moins redoutable sur terre que sur mer. Et comment lui échapper? Cependant, le Saint-Enoch et le Repton activaient leurs préparatifs. Quelles que fussent les idées des Anglais au sujet de cet être apocalyptique, ils allaient mettre à la voile, probablement le même jour que le navire français. Puisque le capitaine King et son équipage n'hésitaient pas à partir, le capitaine Bourcard et le sien pouvaient-ils ne point suivre son exemple? Il résulte de là que, le 10 octobre, dans la matinée, les deux bâtiments levèrent l'ancre à la même heure pour profiter de la marée. Puis, le pavillon à la corne, servi par une petite brise de terre, ils traversèrent la baie d'Avatcha, cap à l'est, comme s'ils naviguaient de conserve. Après tout, en prévision d'une redoutable rencontre, qui sait, malgré leurs antipathies, s'ils ne seraient pas conduits à se prêter assistance. Quant à la population de Petropavlovsk, en proie à l'épouvante, son seul espoir était que le monstre, après s'être acharné contre le Repton et le Saint-Enoch, s'éloignerait des eaux sibériennes. Chapitre 10. Coup double. Tandis que les deux navires gagnaient le large, à 6 ou 7 encablures l'un de l'autre, les eaux furent surveillées avec autant d'attention que d'inquiétude. Il est vrai, plus de 48 heures s'étaient écoulées, et depuis la rentrée hâtive des pêcheurs Kamtchadal, la tranquillité de la baie n'avait point été troublée. Cependant, la terreur des habitants de Petropavlovsk ne devait se calmer de longtemps.
ce n'est point l'hiver qui les défendrait contre les attaques du monstre, puisque cette baie d'Avatcha n'est jamais prise par les glaces. D'ailleurs, vint-elle à se congeler, pour peu que le dit monstre fût apte à se mouvoir sur terre comme sur mer, la bourgade n'eût pas été à l'abri de ses agressions. Le certain, c'est que les équipages ne virent rien de suspect, ni à bord du Saint-Enoch, ni sans doute à bord du Repton. Les longues-vues s'étaient dirigées vers tous les points de l'horizon et du littoral. Pas une seule fois, la surface des eaux ne révéla quelque agitation intérieure. Sous l'action de la brise, la mer se gonflait en longues houles, et c'est à peine si les lames déferlaient du côté du large. Le Saint-Enoch, ça conserve également, s'il est permis de lui donner ce nom, portait voiles hautes et basses, armures à bâbord. Le capitaine Burckhardt se trouvait au vent du capitaine King, et, en lofant d'un quart, il ne tarda pas à accroître la distance qui séparait les deux navires. Au sortir de la baie, mer absolument déserte, ni fumée ni voile à l'horizon. Probablement nombre de semaines s'écouleraient avant que les pêcheurs de la baie d'Avatcha voulussent se risquer au dehors. Et qui sait si ces parages du Nord Pacifique ne seraient pas délaissés pendant toute la durée de l'hiver. 3 jours se passèrent. La navigation ne fut signalée par aucun incident ou accident. Les vigies du Saint-Enoch n'aperçurent rien qui indiqua la présence du géant océanique dont s'épouvantait Petropavlovsk. Et pourtant, elles avaient fait bonne garde. 3 harponneurs dans les barres du grand mât, du mât de misaine et du mât d'artimon. Mais si le grand serpent de mer ne se montra point, M. Burckhardt n'eut pas l'occasion non plus d'amener ses pirogues, ni cachalots, ni baleines. Aussi l'équipage se dépitait-il en constatant que les résultats de cette seconde campagne seraient nuls. « En vérité, ne cessait de répéter M. Burckhardt, tout cela est inexplicable. Il y a quelque chose dont on ne peut se rendre compte. » À cette époque de l'année, dans le nord du Pacifique, les souffleurs abondent d'ordinaire, et on les chasse jusqu'à la mi-novembre. Nous n'en voyons pas un seul. Et même, comme s'ils avaient fui ces parages, il n'y a pas plus de baleiniers que de baleines. Cependant, faisait observer le docteur Filliol, si les cétacés ne sont pas ici, ils sont ailleurs. Car je ne suppose pas que vous en soyez à croire que l'espèce est disparue. À moins que le monstre ne les ait avalés jusqu'au dernier, répondit le lieutenant Allott. Ma foi, reprit M. Filliol, en quittant Petropavlovsk, je ne croyais guère à l'existence de cet animal extraordinaire, et maintenant je n'y crois pas du tout. Les pêcheurs ont été le jouet d'une illusion. Ils auront aperçu quelques poulpes à la surface des eaux, et leur épouvante lui aura donné des dimensions gigantesques. Un serpent de mer long de 300 pieds, c'est une légende qu'il aurait fallu envoyer à l'ancien constitutionnel. Toutefois, telle n'était pas l'opinion à bord du Saint-Enoch. Les novices, la plupart des matelots, écoutez le tonnelier qui ne cessait de les effrayer par ses histoires à faire dresser les cheveux sur la tête des chauves, comme le disait le charpentier féru. Et pourtant, à force de ne rien voir, ne finirait-on pas par ne rien croire? Jean-Marie Cabidoulin ne se rendait pas. À son avis, les pêcheurs de Petropavlovsk n'avaient point fait erreur. Le monstre marin existait en réalité, et non dans l'imagination de ces pauvres gens. Le tonnelier n'avait pas eu besoin de cette nouvelle rencontre pour être édifié, et aux quelques plaisanteries qui lui furent faites, ce jour-là, il répondit « Le Saint-Enoch n'aurait pas connaissance de l'animal, il ne le trouverait pas sur sa route, que cela ne changerait rien aux choses. Les Kamtchadal l'ont vu, d'autres le verront encore. » Et ne s'en tireront peut-être pas à bon compte. Et je suis certain que nous-mêmes... » « Quand ?» demanda Maître Olive. plutôt que tu ne penses, déclara le tonnelier. Et pour notre malheur.
Bouteille de tafia, vieux, que nous n'en verrons pas même le bout de la queue de ton serpent avant l'arrivée du Saint-Enoch à Vancouver.
Tu peux bien en parier deux, et trois, et la demi-douzaine.
Pourquoi ?
Parce que tu n'auras jamais à les payer, ni à Victoria, ni ailleurs.
Et dans l'esprit de cet entêté de Jean-Marie Cabidoulin, sa réponse signifiait que le Saint-Enoch ne reviendrait pas de ce dernier voyage. Pendant la matinée du 13 octobre, les deux navires se perdirent de vue. Depuis 24 heures, ils ne suivaient plus la même direction, et le Repton, ayant serré le vent, se trouvait plus haut en latitude. Le temps ne cessait de se maintenir avec une mer assez belle. La brise variait du sud-ouest au nord-ouest, par conséquent très favorable à cette navigation vers les terres d'Amérique. Les observations de M. Bourcard le mettaient alors à 400 lieues du littoral asiatique, c'est-à-dire environ au tiers de la traversée. Le Pacifique était absolument désert depuis que le baleinier anglais gagnait vers le nord. Aussi loin que se prolongeait le regard, rien n'apparaissait sur toute l'étendue des eaux, à peine troublée par le sillage. Les oiseaux de grand vol ne se transportaient plus à cette distance de la côte. Si le vent tenait, le Saint-Enoch ne tarderait pas à prendre connaissance des Aléoutiennes. Il était à remarquer que depuis le départ, les lignes mises à la traîne ne ramenaient aucun poisson. Aussi la nourriture se réduisait-elle aux seuls approvisionnements du bord. D'habitude, cependant, en cette partie de l'océan, les navires font bonne pêche. C'est par centaines qu'ils prennent des bonites, des congres, des roussettes, des anges, des spares, des dorades et autres espèces. Ils naviguent même au milieu des bandes de squales, de marsouins, de dauphins, d'espadons. Or, ce qui ne laissait pas d'être singulier, il semblait que tout être vivant eût fui ces parages. Du reste, les vigies ne signalaient point la présence d'un animal exceptionnel par sa forme ou ses dimensions. Et certes, il n'aurait pas échappé aux yeux vigilants de Jean-Marie Cabidoulin. Assis sur l'emplanture du beau pré, s'abritant de sa main afin de mieux voir, toujours en observation, il ne répondait même pas à qui lui adressait la parole. Ce que les matelots entendaient murmurer entre ses dents, c'était pour lui, non pour les autres. Vers 3 heures, dans l'après-midi du 13, à l'extrême étonnement des officiers et de l'équipage, voici que ce cri tomba des barres du grand mât.
« Baleine par tribord derrière !»
Le harponneur du rue venait d'apercevoir un cétacé au large du Saint-Enoch. En effet, en direction du nord-est, une masse noirâtre se berçait aux ondulations de la houle. Aussitôt, toutes les longues-vues de se porter vers la masse en question. Et d'abord, le harponneur ne s'était-il pas trompé? S'agissait-il d'une baleine ou de la coque d'un bâtiment naufragé? Et de part et d'autre s'échangèrent les propos suivants.
« Si c'est une baleine, fit observer le lieutenant Allotte, elle est absolument immobile.
« Peut-être, répondit le lieutenant Coquebert, se prépare-t-elle à plonger ?»«
À moins qu'elle ne soit endormie, répliqua M. Heurtaut.
« Dans tous les cas, reprit Romain Allotte, sachons ce qu'il en est, si le capitaine veut donner des ordres. »
M. Bourcard ne répondait pas, et sa longue-vue aux yeux ne cessait d'observer l'animal. Près de lui, appuyé contre la rambarde, le docteur Filliol regardait avec une égale attention et finit par dire «
Il se pourrait que ce fût encore une de ces baleines mortes, comme nous en avons déjà rencontré. »«
Morte ? » s'écria le lieutenant Allotte.
« Et même que ce ne soit pas une baleine, » ajouta le capitaine Bourcard.
« Que serait-ce donc ? »
demanda le lieutenant Coquebert.
« Une épave ? Un navire abandonné ?»
Il eût été d'ailleurs difficile de se prononcer,
car la masse flottait à non moins de 6 milles du Saint-Enoch.
« Capitaine, reprit le lieutenant à Lotte.
« Oui, répondit M. Bourcard, qui comprenait l'impatience du jeune officier.
Aussitôt, il commanda de mettre la barre dessous et de raidir les écoutes. Le navire, changeant légèrement sa direction, mit le cap au nord-est. Avant 4 heures, le Saint-Enoch n'était plus qu'à la distance d'un 1/2 mille. Impossible de se tromper. Ce n'était pas une coque en dérive. C'était bien un cétacé de grande taille, dont on ne pouvait encore dire qu'il fût mort ou vivant. Et alors M. Heurtaud de laisser retomber sa longue vue en déclarant
« Si cette baleine-là est endormie, nous n'aurons pas grand-peine à la piquer. »
Les pirogues du second et des deux lieutenants furent amenées sur l'animal. S'il était vivant, on lui donnerait la chasse. S'il était mort, on le remorquerait au Saint-Enoch. Il rendrait sans doute une centaine de barils, car M. Bourcard en avait rarement rencontré d'une telle taille. Les 3 embarcations démarrèrent, tandis que le bâtiment mettait en panne. Cette fois, les officiers, laissant de côté tout amour-propre, ne cherchèrent point à se devancer. Voiles hissées, les pirogues marchèrent de conserve et n'armèrent les avirons qu'un 1/4 mille avant d'accoster la baleine. Elles se séparèrent alors de manière à lui couper la route en cas qu'elle voulût prendre la fuite. Tant de précautions n'étaient point nécessaires, et le second de crier presque aussitôt
« Pas craindre qu'elle s'enfuit ou s'enfonce, celle-là !»«
Ni qu'elle se réveille !» ajouta le lieutenant Coquebert.
« Elle est morte !»«
Décidément !» répliqua Romain Allotte. « Il n'y a plus que des baleines crevées dans ces parages !»«
Amarrons-la tout de même !» répondit M. Heurtaud, « car elle en vaut la peine !»
C'était un énorme baleinoptère qui ne semblait pas d'être en état de décomposition avancée, et sa mort ne devait guère remonter qu'à 24 heures. Il ne se dégageait aucune fétide émanation de cette masse flottante. Par malheur, lorsque les pirogues eurent contourné l'animal, on vit une large déchirure à son flanc gauche. Les entrailles traînaient à la surface de l'eau. Une portion de la queue manquait. La tête présentait les traces d'une forte collision, et la bouche grande ouverte était dégarnie de ses fanons, qui, décollés des gencives, avaient coulé. Quant au gras de ce corps déchiqueté et imbibé, il n'offrait plus aucune valeur.
« Dommage, dit M. Heurtaud, qu'il n'y ait rien à tirer de cette carcasse.
« Alors, demanda le lieutenant à Lotte, ce n'est pas la peine de la prendre en remorque.
« Non, répondit le harponneur Kardec, et elle est dans un tel état que nous en laisserions la moitié en route.
« Au Saint-Enoch, commanda M. Heurtaud. Les 3 pirogues, ayant vent debout, garnirent leurs avirons. Mais, comme le bâtiment, après avoir éventé ses voiles, se rapprochait, elles l'eurent bientôt rejoint et furent hissées à bord. Lorsque M. Bourcard eut entendu le rapport du second,
« Ainsi, dit-il, c'était un baleinoptère ?»«
Oui, capitaine. »«
Et il n'a pas été piqué ?»«
Non, certes, » déclara M. Heurtaud. « Et des coups de harpon ne font pas de telles blessures. Il semblerait plutôt que celui-ci aurait été écrasé. »«
Écrasé ? Par qui ?»
Il n'aurait pas fallu le demander à Jean-Marie Cabidoulin. Ce qu'il aurait répondu, on le devine. Avait-il donc eu raison contre tous? Et ces parages étaient-ils dévastés par un monstre marin de dimension extraordinaire et de vigueur prodigieuse? La navigation continua. Et ce n'est pas du temps que M. Bourcard aurait pu se plaindre. Jamais traversée ne fut mieux favorisée par le vent, et elle serait de courte durée. Si les conditions atmosphériques ne se modifiaient pas, le Saint-Enoch n'emploierait, pour regagner Vancouver, que les 3/4 du temps qu'il avait mis à se rendre au Kouril. Qu'il eût fait heureuse pêche dans ces parages
et il serait arrivé en bonne époque pour écouler son huile sur le marché de Victoria. Par malchance, la campagne n'avait été fructueuse ni dans la mer d'Okhotsk, ni depuis le départ de Petropavlovsk. Les hommes n'avaient pas une seule fois allumé la cabousse, et les deux tiers des barils restaient vides. Il fallait donc faire contre mauvaise fortune bon cœur, se résigner avec l'espoir que, dans quelques mois, on se dédommagerait sur les parages de la Nouvelle-Zélande. Aussi Maître Olive répondait-il aux novices qui n'avaient pas l'expérience des matelots. « Voyez-vous, les gars, c'est comme cela le métier. Une année on réussit, une année on ne réussit pas. Et il n'y a ni à faire l'étonner ni à perdre confiance. Ce ne sont point les baleines qui courent après le navire. C'est le navire qui court après les baleines. Et quand elles ont filé au large, la fine malice est de savoir où les retrouver. Donc, approvisionnez-vous de patience, fourrez-en dans votre sac, mettez votre mouchoir par-dessus et attendez. » Parole sage, s'il en fut. Et mieux valait écouter Maître Olive que Maître Cabidoulin, avec lequel le premier terminait invariablement ses conversations en disant « Bouteille de tafia tient toujours ?»«
Toujours !»
répliquait le tonnelier. En vérité, il semblait que plus on allait, plus les choses donnaient raison à Jean-Marie Cabidoulin. Si le Saint-Enoch ne rencontra plus une seule baleine, du moins des débris furent parfois aperçus à la surface de la mer, des restes de pirogues, des coques de navires en dérive. Et ce qui était à noter, c'est que ces navires paraissaient avoir péri à la suite de collisions. S'ils avaient été abandonnés de leurs équipages, c'est qu'ils ne pouvaient plus tenir la mer. Dans la journée du 20 octobre, la monotonie de cette traversée fut interrompue. Une occasion s'offrit enfin au Saint-Enoch de remplir une partie des barils de sa cale. Le vent ayant un peu molli depuis la veille, M. Bourcard avait dû faire établir les voiles des tais et les bonnettes. Un beau soleil éclairait le ciel sans nuages, et l'horizon se dessinait purement sur tout son périmètre. Vers 3 heures, le capitaine Bourcard, le docteur Filiol et les officiers étaient en train de causer sous la tente de la dunette, lorsque ce cri retentit de nouveau. « Baleine ! Baleine !» C'était des barres du grand mât que le harponneur Ducré venait de pousser ce cri. « En quelle direction ?» lui fut-il immédiatement demandé par le maître d'équipage. « À 3 000 sous le vent, à nous !» Nul doute cette fois, car un jet s'élevait en cette direction au-dessus de la mer. L'animal, ayant remonté à la surface après sa plongée, c'était au moment même où s'échappait cette colonne d'air et d'eau que Ducré l'avait aperçu. Un second jet ne tarda pas à suivre le premier. On ne s'étonnera pas que le lieutenant Alott eût fait à l'instant cette remarque. « Enfin, elle n'est pas morte, celle-là !»«
Non, répliqua M. Heurtaud, et elle ne doit même pas avoir été blessée, puisqu'elle souffle blanc. »«
À la mer, les 3 pirogues !» ordonna M. Bourcard. Jamais circonstance plus favorable ne s'était offerte pour donner chasse. Mer plate, petite brise de quoi remplir la voile des embarcations, encore plusieurs heures de jour qui permettraient de prolonger la poursuite. En quelques minutes, les pirogues du second et des lieutenants furent à la mer avec leur armement habituel. Dans chacune prirent place messieurs Heurtaud, Coquebert, Alott, un matelot à la barre, 4 aux avirons, les harponneurs Kardec, Duru et Ducré à l'avant. Puis elles prirent rapidement la direction du nord-est. M. Heurtaud recommanda aux 2 lieutenants d'observer une extrême prudence. Il importait de ne point effaroucher la baleine et de la surprendre. Elle semblait être de forte taille, et parfois, l'eau, battue d'un formidable coup de sa queue, rejaillissait à une grande hauteur. Le Saint-Enoch, sous petite voilure, huniée et trinquette, se rapprochait lentement. Les 3 pirogues marchaient sur la même ligne et, expresse recommandation de M. Bourcard, ne devaient point chercher à se dépasser. Mieux valait qu'ils fussent réunis au moment d'attaquer l'animal. Donc, le lieutenant Allotte dut modérer son impatience. Ce ne fut pas sans peine. Et de temps en temps, M. Heurteau était obligé de lui crier « Pas si vite ! Pas si vite, Allotte ! Et restez dans le rang !» Lorsque la baleine avait été aperçue, elle émergeait à 3 milles environ du navire, distance que les embarcations enlevèrent aisément en une demi-heure. Les voiles furent alors amenées et les mâts couchés sous les bandes de manière à ne point gêner la manœuvre. Chaque harponneur avait à sa disposition 2 harpons, dont l'un de rechange. Les lances bien appointées, les louchers bien aiguisés, étaient à portée de la main. On s'assura que les lignes, lovées dans leur bail, ne s'embrouilleraient pas à travers l'engougeur garni de plomb de l'avant, et seraient facilement tournées sur le montant fixé derrière le tillac. Si l'animal, une fois amarré, fuyait à la surface de la mer ou plongeait dans ses profondeurs, on lui filerait de la ligne. C'était un baleinoptère ne mesurant pas moins de 28 à 29 mètres, de l'espèce des culamacs, avec des nageoires pectorales longues de 3 mètres et une caudale triangulaire de 6 à 7. Il devait peser près de 100 tonnes. Ce culamac, ne donnant aucun signe d'inquiétude, se laissait aller au balancement d'une houle allongée, son énorme tête tournée au large des embarcations. Pour sûr, Jean-Marie Cabidoulin eût déclaré qu'on en retirerait au minimum 200 barils d'huile. Les 3 pirogues, une sur chaque flanc, la dernière en arrière, prête à se porter à droite ou à gauche, étaient arrivées sans avoir donné l'éveil. Duru et Ducret, debout sur le tillac, balançaient le harpon, attendant le moment de le lancer au-dessous des nageoires de la baleine, de manière à la blesser mortellement. Si elle était atteinte d'un double coup, sa capture n'en serait que plus certaine. En cas qu'une des lignes vint à se rompre, on la tiendrait du moins avec l'autre, sans craindre de la perdre pendant la durée de son plongeon. Mais, au moment où la pirogue du lieutenant Allotte allait l'accoster, le culamac, avant que le harponneur eût pu le piquer, se retourna brusquement au risque d'écraser l'embarcation, puis sonda, après avoir frappé la mer d'un si violent coup de queue que l'eau rejaillit à 20 mètres. Aussitôt les matelots de s'écrier « Satanée bête ! La voilà en fuite ! Pas même un coup de lance dans le gras ! Et pas de ligne à lui filer ! Et quand remontera-t-elle ? Et où remontera-t-elle ? » Ce qu'il y avait de certain, c'est que ce ne serait pas avant une demi-heure, temps égal à celui qui s'était écoulé depuis son premier souffle. Après le tumultueux remous produit par le coup de queue, la mer était redevenue calme. Les 3 pirogues venaient de se rejoindre. M. Heurteau et les 2 lieutenants étaient bien résolus à ne point abandonner une si belle proie. Maintenant, il n'y avait qu'à attendre la remontée du culamac, qu'il était impossible de suivre à bout de ligne. Ce qu'il y avait à désirer, c'était qu'il se relevât sous le vent, afin que les pirogues pussent le poursuivre à l'aviron et à la voile. Du reste, aucun autre cétacé ne se montrait en ces parages. Il était un peu plus de 4 heures lorsque le culamac apparut de nouveau. À cet instant, s'échappèrent 2 jets énormes qui sifflèrent comme une mitraille. Un demi-mille seulement le séparait des pirogues et sous le vent. « Hissez les voiles, armez les avirons et cap dessus !» cria M. Heurteau. 1 minute après, les embarcations filaient dans la direction indiquée. Cependant, l'animal continuait à s'éloigner vers le nord-est et, son dos émergeant, nageait avec une certaine vitesse. La brise ayant quelque peu fraîchi, les pirogues ne laissaient pas de gagner sensiblement sur lui. De son côté, le capitaine Bourcard, craignant que celles-ci ne fussent entraînées très loin, fit orienter les voiles afin de ne point les perdre de vue. La route qu'il ferait au nord-est, ce serait cela d'épargner en temps et en fatigue lorsque les embarcations chercheraient à regagner le bord avec l'animal à la remorque. La chasse se poursuivit dans ces conditions. Le culamac fuyait toujours et les harponneurs ne parvenaient pas à l'approcher d'assez près pour le piquer. Il est certain que les pirogues, réduites à leurs seuls avirons, n'auraient pu se tenir si longtemps à pareille allure. Heureusement, le vent leur vint en aide, et la mer se prêtait à une marche rapide. Toutefois, la nuit n'obligerait-elle pas M. Heurtaud et ses hommes à revenir au Saint-Enoch? Ils n'étaient point assez munis de vivres pour rester au large jusqu'au lendemain. Si le baleinoptère n'avait pas été rejoint avant la tombée du jour, force serait de renoncer à continuer la chasse. Or, il semblait bien qu'il en serait ainsi, et il était près de 6h30 lorsque le harponneur Durut, resté debout sur le tillac, cria « Navire par l'avant !» M. Heurtaud se redressa au moment où les lieutenants Coquebert et Allotte cherchaient à apercevoir le bâtiment signalé. Un trois-mâts, tout dessus, serrant le vent d'aussi près que possible, venait d'apparaître à 4 milles en direction du nord-est. Que ce fût un baleinier, on en pouvait douter. Peut-être même ses vigies avaient-elles vu le culamac qui se trouvait à mi-chemin entre les pirogues et lui. Soudain, Romain Allotte de s'écrier en baissant sa longue vue
« C'est le Repton !»«
Oui, le Repton !» répondit M. Heurtaud. « Il semble vouloir nous couper la route. »«
Avec ses armures à bâbord !»
ajouta Yves Coquebert.
« C'est pour venir nous saluer !»
répliqua ironiquement le lieutenant Allotte. 8 jours s'étaient écoulés depuis que le bâtiment anglais et le bâtiment français s'étaient séparés, après avoir quitté ensemble Petropavlovsk. Le Repton avait mis le cap plus au nord, probablement dans l'intention de gagner la mer de Bering. Et voici qu'il reparaissait, sans avoir doublé les extrêmes pointes des îles Aléoutiennes. Le capitaine King voulait-il donc lui aussi courir sur l'animal que les pirogues du Saint-Enoch poursuivaient depuis 3 longues heures? Il y eut certitude à cet égard lorsque le harponneur Kardec dit à M. Heurtaud
« Les voici qui mettent leurs embarcations à la mer. »«
Évidemment, c'est pour amarrer la baleine !» déclara le lieutenant Coquebert.
« Ils ne l'auront pas !»
répondit résolument Romain Allotte, et tous ses compagnons de fer chorus, ce qui ne saurait surprendre. Cependant, bien que la mer commençât à s'obscurcir, les pirogues du Repton filaient à toute vitesse vers le culamac, maintenant immobile, comme s'il hésitait à fuir du côté de l'est ou du côté de l'ouest. Quant aux matelots du Saint-Enoch, ils forçaient sur leurs avirons pour les devancer, car le vent étant tombé, il avait fallu amener les voiles.
« Hardi, les enfants, hardi !»
répétaient M. Heurtaud et les lieutenants, qui stimulaient leurs hommes de la voix et du geste. Et ceux-ci de crier en souquant ferme
« Non, ils ne l'auront pas, ils ne l'auront pas !»
En fait, la distance à franchir était à peu près égale. Il y avait tout lieu de croire que les pirogues atteindraient le baleinoptère en même temps, à moins qu'il ne disparût dans une dernière plongée. Cela va sans dire, il ne s'agissait plus de rester dans le rang ainsi que l'avait ordonné M. Heurtaud. Chaque embarcation poussait pour son propre compte. Comme d'habitude, le lieutenant Allotte se maintenait en avant et ne cessait de répéter
« Hardi, mes enfants, hardi !»
De leur côté, les Anglais gagnaient rapidement, et même le culamac tendait à se rapprocher d'eux. D'ailleurs, avant 10 minutes, la question serait résolue. Ou l'animal aurait été piqué, ou il aurait disparu sous les eaux. À quelques instants de là, les 6 pirogues se trouvèrent en face les unes des autres, à moins d'une encablure. Qu'allait-il arriver, étant donné l'animation des équipages?
« Mais cette bête-là veut donc porter son huile aux English ?»
s'écria un des matelots de la pirogue Coquebert en la voyant évoluer vers le Repton.
Non. Le Culamax s'arrêta lorsque les embarcations n'en étaient plus qu'à une centaine de pieds. Afin d'échapper plus sûrement peut-être, se préparait-il à s'enfoncer. En ce moment, Ducré, de la pirogue Alotte, brandissant son harpon, le lança, tandis que le harponneur de la pirogue Strock, du Repton, lançait le sien. Le Culamax fut atteint. Un jet de sang jaillit de ses évents. Il souffla rouge, battit la mer d'un dernier coup de queue, et après s'être retourné sur le ventre, demeura immobile. Mais, dans ce coup double, quel était celui des deux harponneurs qui l'avaient frappé mortellement ?